Je suis dans le bureau de Philippe Solers aux éditions Gallimard. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir. Nous parlons de Medium, votre nouveau roman. La première question, comment utilisez-vous ce terme-là de médium? Il n'est pas anodin, il a une signification, il a même peut-être plusieurs significations.
La définition du dictionnaire me convient. Personne... du latin medus, médium, qui veut dire au milieu. Au milieu. Personne qui est susceptible, dans certaines circonstances, de rentrer en contact avec les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire, rentrer en contact avec les esprits? On vient de rééditer, comme vous l'avez peut-être vu, un livre tout à fait... ébouriffant, qui s'appelle le livre des tables, qui sont les récits de Victor Hugo en train de faire tourner des tables à Jersey puis à Guernesey, après avoir fui la France, où il était suspect. Ça précède des œuvres considérables, mais c'est la vogue du spiritisme. C'est-à-dire qu'il vient des États-Unis, vient l'Angleterre, etc. On croit pouvoir rentrer en contact avec les esprits de l'au-delà, surtout évidemment la fille Léopoldine morte, dont Madame Hugo prétend qu'elle lui a posé une question, qu'elle était seule à connaître avec elle, et que donc c'est bien avéré, n'est-ce pas ? C'est hallucinant. Parce que arrivent des gens de toutes sortes, que ce soit André Chédier, poète guillotiné pendant la Révolution, que ce soit Mahomet, enfin, vous voyez, Hugo met la barre très haute. Bon, alors, vous êtes là, visiblement, chez des fous, mais des fous qui se comportent tous les soirs. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, on s'enduit, la tempête mugit, les esprits sont là, les fantômes. Voilà. Évidemment, j'introduis dans tout ça tout à fait une autre dimension extrêmement rationnelle. C'est le contraire de la vogue de l'occultisme, pour lequel ce titre de médium, un médium, c'est ça, bon... Vous avez entré les médiums dans le mouvement surréaliste à un moment donné, très précis. Enfin, il y a les séances d'hypnose, de sommeil, plus ou moins provoquées, etc. Et je crois que c'est une façon de religiosiser quelque chose qui n'a pas à l'être. Les esprits ne sont pas des fantômes, les esprits ne sont pas des morts qu'on contacte dans l'au-delà. Les esprits sont, vous savez où ? Eh bien, ils sont dans la bibliothèque. Et donc, tout à coup, ils s'adressent à moi. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, dit Baudelaire, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Plus personne ne lit en rien, ou à peu près. Les livres s'adressent à moi, ils sortent presque tout seuls de la bibliothèque. Et là, il y en a un qui est sorti brusquement, qui s'appelle le duc de Saint-Simon. Vous en avez 8 volumes dans la Pléiade. Je vous assure que vous ouvrez ça, vous vous êtes pris par quoi ? Par quelqu'un qui est au milieu, parce que Versailles, à ce moment-là, Louis XIV, c'est vraiment le centre du monde, de la planète. Au milieu des intrigues, des cabales, des naissances et des morts, qui vous décrit page après page la décomposition générale de tout un système qui va être suivi en effet quelques années plus tard par la Révolution dite française, la seule qui ait jamais existé, et vous êtes saisi par la vivacité, le fait, l'information, le regard, le coup d'œil, l'art du portrait, etc. Donc, pour l'époque contemporaine, qui n'est pas moins dévasté et pas moins décomposé, mal recomposé dans tous les sens et finalement n'aboutissant à rien qu'à un tourbillon d'inanité, voilà ce que c'est qu'être un médium, et c'est d'où ce roman qui comporte notamment une critique que je crois radicale de la société où l'on vit, avec un narrateur qui se place à l'endroit voulu pour avoir ce coup d'œil, ou plus exactement cette oreille.
Donc, si je vous suis bien, vous faites le médium de Saint-Simon, qui vous essaie de reprendre l'esprit de Saint-Simon. En même temps, vous dites, vous avez cette phrase, Saint-Simon le comprend très vite, « L'humanité est entrée dans une grande marée de magie noire et seule une nouvelle contre-magie peut faire le poids face à elle, elle s'y emploie, c'est un médium. » Parlant de Saint-Simon.
Le livre a failli s'appeler, du chapitre essentiel, qui s'appelle « Manuel de contre-folie ». Le diagnostic, c'est que ça n'apparaît pas forcément sous une forme hurlante. C'est que quelqu'un qui se trouve réellement au milieu des choses, c'est-à-dire aux affaires, c'est-à-dire dans l'envers de l'histoire contemporaine, comme disait Balzac à l'époque, mais enfin dans le tréfonds des vraies passions qui animent le monde où l'on vit, où vous ne savez pas au moment où je vous parle combien de milliards d'euros, de dollars ont disparu aux îles Caïmans, ni aux îles Vierges, le monde est fou. Bon, c'est une sorte de vive sensation métaphysique, d'où l'exergue de Pascal qui se trouve à l'entrée du livre. Ce serait, dit Pascal, une autre façon d'être fou, de n'être pas fou. Nous vivons dans un grand hôpital de fous. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas s'effrayer du tout, il faut garder son sang-froid, avoir un système nerveux adapté à ce genre de situation, et donner des faits concrets. Bon, alors j'en donne plein. Si vous ne voulez pas savoir que le monde est fou, c'est que vous ne voulez pas le savoir. Mais il y a un chapitre qui s'appelle « L'usine des cadavres sur le recyclage des organes humains » que je lis en public, qui ne provoque aucune réaction. Aucune. C'est la preuve même de ce que j'avance. Je pourrais lire comme ça des enquêtes, parce que je suis un enquêteur très très précis. Les meilleures enquêtes sont en général britanniques, hein, sur ces sujets-là. La presse française les reproduit, ou les reproduit, mais il suffit d'ouvrir l'information, de lire d'une certaine façon entre les lignes pour être tout à fait persuadé sur tous les sujets, notamment sexuels, reproductifs, mise en vente de l'organisme humain, etc. C'est très étonnant. On vit une mutation. On change d'air, si vous voulez. Alors, la Révolution française a été un changement d'air considérable, hein, qui faisait que Hugo interrogeait encore ce qui avait pu se passer. Vous savez, 93, c'est un grand livre de Hugo, très très mauvais d'ailleurs, exécrable. Donc, il faut simplement être à l'écoute. Je crois que le roman doit faire ça, et je suis étonné que la plupart des romanciers parlent de leur roman familial, de leur vision extrêmement étroite de ce qu'on appelle désormais la mondialisation, que j'appelle moi l'immondialisation. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi une telle cécité, une telle surdité, une telle... devant... Et il ne s'agit surtout pas de s'indigner. Saint-Simon n'est pas indigné. Il décrit froidement ce qu'il a, une falsification de toutes les données antérieures. Voilà.
Et c'est lui qui a écrit un manuel de contre-folie, alors, à votre sens.
Oui, enfin, je dis que ses mémoires.
Ses mémoires seraient un manuel de contre-folie, ou pourraient être sous-titrés, voilà. Manuel de contre-folie.
Oui. J'aime bien le mot manuel parce qu'il a un côté presque de preuve didactique. Hein, c'est un titre à la Balthazar Gracian, si vous voulez, par exemple. Autre esprit très lucide de son temps qui disait « Pour voir les choses à l'endroit, il faut commencer par les regarder à l'envers. »
Et pour parler de Saint-Simon et de la manière de ne pas tomber dans un état de folie, parce que dans votre livre « Médium » Philippe Solers, vous écrivez aussi quelque part une sorte de manuel de contre-folie.
Oui.
Vous parlez des dictionnaires. Vous dites que la folie n'aime pas l'histoire et les dictionnaires, c'est-à-dire tout ce qui pourrait gêner sa monomanie, que la folie réécrit d'un trait l'archive humaine, et Vous faites le parallèle avec, bien entendu, les mémoires de Saint-Simon, du fait que c'est une concurrence à l'état civil. Quoi. Enfin, c'est 7000,
c'est Balzac.
Oui, c'est Balzac, mais le duc de Saint-Simon, vous l'écrivez clairement, c'est 7000 personnages.
Ce qui m'intéresse, c'est qui a aimé Saint-Simon et qui l'a lu dans le temps. Il y a un exemple étourdissant. Vous savez que Stendhal, par exemple, disait « Mes seuls goûts durables ont été les épinards et Saint-Simon ». C'est très joli. Bon. Proust, toute la recherche du temps perdu est en défi avec Balzac, bien sûr, mais Saint-Simon. Proust a fait des pastiches de Saint-Simon, excellent d'ailleurs, où il a étudié la place des adjectifs, la place de... Voilà. Et Proust était extraordinairement l'auteur qui a compris que au début du XXe siècle, tout était à reprendre, à prendre. C'est la première fois qu'on voit une société qui va se décomposer. C'est la première grande boucherie de 1914-1918. Il le rattrape, il termine de façon absolument fiévreuse cet énorme archive du temps, dit perdu puis retrouvé. L'autre écrivain qui est dans l'esprit de Saint-Simon, c'est Céline. C'est bien évident, c'est la même chose. On est après la première boucherie extravagante. Personne n'a jamais été capable de m'expliquer en quoi la guerre, Première Guerre mondiale, 1914-1918, en quoi était-elle nécessaire? Personne n'a jamais réussi à me dire pourquoi. Mais c'est étrange, vous ne trouvez pas? Alors ensuite, vous avez ce pays qui, de nouveau, s'effondre en 1940, et depuis qui s'effondre de plus en plus. Donc on est dans une situation absolument merveilleuse, je dirais. Horrible, mais merveilleuse. C'est-à-dire, tout vient vers vous pour se faire déchiffrer, si vous êtes médium.
Si vous êtes médium. D'où cette recherche dans votre livre Médium, autour de Saint-Simon, autour de ses mémoires et autour de ce manuel de contre-folie, parce que dans Médium, Philippe Sellers, il y a donc ce narrateur qui est sans doute vous, qui est à Venise très souvent, avec ces deux femmes, il y a Loretta et puis Ada la masseuse, voilà, qui sont un peu les deux femmes de votre livre. Sinon, c'est vous et Saint-Simon.
C'est-à-dire que le problème est de trouver le lieu et la formule pour être tout à fait à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut vraiment un énorme silence personnel. Donc, c'est Venise, mais dans un quartier très populaire, très peu fréquenté. Venise est une ville que je connais par cœur. Je sais exactement où aller pour échapper à toute possibilité de contrôle. Hein. Bon, j'aime beaucoup la clandestinité. Je l'ai pratiquée énormément et je sais faire. Et là, il y a en effet un personnage, à mon avis, très, très, très important, qui est cette masseuse piémontaise qui vient. La relation est tarifée, mais tout à coup, elle passe au gratuit. C'est-à-dire qu'il y a comme un supplément physique inattendu qui fait que c'est une sorte d'histoire d'amour. Et comment voulez-vous représenter, par exemple, filmer, puisque tout le monde fait du cinéma dans les romans, ça doit être du cinéma, sans quoi je ne sais pas, je ne suis pas l'histoire. Etc. Comment voulez-vous filmer un massage réussi, conclu par une relation pleinement réussie, hein? C'est impossible. Il faut que vous trouviez les mots pour que les cinq sens puissent arriver en même temps. Puisque vous êtes dans la situation folle d'un monde qui veut vous priver de la plupart de vos sensations. Donc c'est l'expropriation des corps. Vous êtes scotché à l'image, à la télévision, ou un peu à la radio. Vous êtes scotché à la politique qui tourne en rond dans la routine du commentaire. Et vous perdez la sensation du toucher. Donc c'est prévu, ça aussi. C'est une grande tyrannie des marchés financiers qui veulent tout simplement que tout soit plat. Or, vous êtes dans une platitude presque constante, hein, routinière, constante, bavarde, etc. Donc, un massage dans ces conditions, c'est pour ça que c'est un des meilleurs personnages de femme que j'ai pu décrire, non sans connaissance de cause. Et il y en a une autre qui s'appelle Loretta, qui est là, qui tient ce petit restaurant dans un coin discret, complètement discret de Venise. Eh bien, c'est avec ce genre de retrait du monde bavard, avec aussi les séances en bateau qui sont très pratiquées par le narrateur, parce que qui ne connaît pas Venise par la mer, par l'eau, comme les navigateurs qui autrefois rentraient dans cette ville venant de très loin, ne connaît rien. En fait, il faut venir d'un piège. Tout est à votre disposition. Il y a des biennales, il y a des expositions, il y a le cinéma, il y a l'art contemporain, il y a des touristes partout, là où il y a des choses à acheter. Mais si vous vous décalez un petit peu, vous êtes dans un endroit absolument idéal pour regarder à fond ce qui est en train de se passer. Donc, c'est le lieu et la formule. C'est-à-dire être au milieu, dans le tourbillon, ou si vous préférez, dans l'œil du cyclone.
Cette Ada, c'est une belle et une étrange héroïne de roman. Enfin, elle est toute pleine de mystères. Vous dites juste ce qu'il faut d'elle. Elle fait quelque part reprendre presque vie au corps du narrateur par ses massages. Elle agit sur le corps, elle agit sur la tension nerveuse de ce personnage, qu'on a envie que ce soit vous d'ailleurs, bien entendu.
Depuis que j'ai écrit ce livre, vous n'imaginez pas le nombre de personnes, en général masculines d'ailleurs, qui me demandent l'adresse de cette passeuse, que je garde rigoureusement pour moi, cela va sans dire. C'est ce qu'on appelle des rencontres. Je crois beaucoup. Dans tous les romans, il y a ce thème fondamental, c'est la rencontre. Quelque chose se passe, vous rencontrez. C'était là, dans Trésor d'amour, c'est une Vénitienne complètement différente. Voilà. Mais une rencontre. Une rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut échanger avec un partenaire, une partenaire dans mon cas, quelque chose qui tient à la magie, alors pour le coup, de l'enfance. Vous retrouvez quelque chose d'une enfance que vous pourriez partager. Vous voyez pointer à l'horizon le thème incestueux, hein, c'est toujours quelque chose comme mère et fils, ou frère et sœur, ou quelque chose de cet ordre. Et vous recevez une réponse ou pas. C'est ça la rencontre. Revivre son corps d'une certaine façon, notamment en entier, si je peux dire. Hein,
pas... Oui, parce que c'est un massage complet.
Oui, et là, la ponctuation sexuelle, et ça c'est très important, est décidée par le personnage féminin, pas par le narrateur qui est assez surpris de ce qui se passe et ne demandait pas mieux. Mais enfin, il reçoit une réponse.
Parce que cette liberté d'Ada, j'ai trouvé qu'elle ce parallèle avec la liberté de forme du texte. Enfin, Medium est un texte d'une très très grande liberté. Ce sont des paragraphes séparés par des espaces. Et vous nous trimballez, Philippe Solers, de Venise, de Loretta. D'ailleurs, il y a une circularité, parce que Loretta vous fait penser à Notre-Dame de Lorette, c'est au début, et puis à la fin, vous revenez à Notre-Dame de Lorette par la mort de Lautréamont à 24 ans, avec l'absoute en septembre 1870, célébrée à Notre-Dame de Lorette à Paris. Je trouvais que ça faisait une belle circularité. Mais vous avez une forme d'une très grande liberté. Effectivement, on n'est pas du tout dans le cinéma, c'est pas une histoire que vous racontez. Ah, et vous arrivez... de Venise à Ada, à Lorette, à nous parler tout le long de Saint-Simon et de ce manuel de contre-folie via Saint-Simon, mais en y injectant également vos idées aussi.
Oui. C'est-à-dire que, par exemple, le nom de Lorette, Loretta, ce n'est pas évident. Ça évoque Lorette. Notre-Dame de Lorette, c'est impossible de ne pas penser à quelque chose qui est soigneusement occulté dans l'enseignement, c'est-à-dire au voyage en Italie de Montaigne, qui est mon compatriote à Bordeaux. À l'âge de 12 ans, visite de la tour de Montaigne, lycée, je rentre dans sa bibliothèque et je vois les poutres sur lesquelles il avait écrit des citations latines et grecques. Et il s'était retiré pour écrire ce chef-d'œuvre extraordinaire qui s'appelle « Les Essais ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette chambre? Voilà ce qu'on pourrait appeler alors aujourd'hui un médium extraordinaire. Donc il va en Italie, il veut vérifier si, contrairement aux innovations calviniennes, on s'égorge sous ses fenêtres, c'est la guerre de religion, si le pape Grégoire XIII, celui du calendrier, chaque fois que vous signez un chèque, vous signez le calendrier de Grégoire XIII, il faut le savoir. Vous venez d'avoir deux canonisations coup sur coup à Rome, c'était quand même extraordinairement bien organisé, peu importe ce qu'on en pense ou pas, il faut regarder la technique qui est formidable. Non, donc il va en Italie, il vérifie si on garde bien les textes latins et grecs. Oui. Et puis de là, il va à Notre-Dame de Lorette. C'est une histoire de fou, complètement. Notre-Dame de Lorette est censée être, il y a une basilique, est censée être l'endroit où la maison où a vécu la Vierge en Palestine, vous voyez, est venue portée par des anges là. C'est totalement aberrant. Montaigne est un esprit froid. Il décide non seulement ça, mais il apporte un ex-voto qui va accrocher, qu'il représente lui et sa fille au pied de la Vierge, etc. Et il communie sur place, dit-il, de la part d'un jésuite allemand. Enfin, j'ai suivi des études classiques très attentives et j'ai été obligé de découvrir tout seul l'école de Baron-Sédier. Et alors c'est là où j'ai commencé à avoir des doutes, d'ailleurs, non seulement sur la société en général, à travers ma famille, pour des raisons précises, parce que c'est une famille anglaise, donc personne n'était anglophile au moment où je suis né, puisque les Allemands débarquaient, etc. Bon, donc je me méfie de ce que la société présente. Et scolairement, je n'ai jamais entendu parler de ce voyage de Montaigne. J'ai voulu donc le restituer dans sa véracité.
Et sur la forme, cette grande liberté.
Alors, Lorette, vous avez Notre-Dame de Lorette à Paris. Voilà. C'est-à-dire l'endroit où, là aussi, dans les biographies, enfin, ce qu'on a pu restituer de la biographie de Lothar Hamon, il n'est jamais question de cette absoute. Puisqu'on ne sait pas où est le corps de Ducasse, bon, de Lothar Hamon, admirable, mort pendant la commune de Paris, mort de quoi, on ne sait pas, de consomption. Bon, voilà. Et c'est la même chose avec Proust. Vous prenez un biographe comme Tadier, qui a fait la biographie de Proust, très informé. Il y a une seule chose qui manque, comme c'est bizarre, c'est le fait que Proust a eu un enterrement tout à fait catholique, religieux, à Notre-Dame de Chaillot. C'est là où Barrès dit à Mauriac, qui suivent le cercueil de Proust, il dit, Barrès dit à Mauriac, oh, finalement, Proust, c'était notre jeune homme. Vous vous rendez compte? Bon, un enterrement tout à fait religieux, catholique. Bon, le biographe vous fait mourir Proust, et immédiatement, il est au cimetière. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens n'ont pas envie de savoir. J'ai pris ça comme détermination très tôt, très jeune, enfant presque. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de savoir? Et c'est la question que je crois qui est fondamentale. La question du médium, c'est ça. Qu'est-ce que Hugo n'a pas envie de savoir? Qu'est-ce que la plupart des écrivains n'ont pas envie de savoir? Que la plupart des humains, c'est pareil. Ils n'ont pas envie de savoir quoi. Et c'est ça qui est intéressant.
Et on revient au manuel de Contrefolie.
Je peux ne pas avoir envie de savoir que désormais on vit dans un monde de fous. Parce que tout semble. C'est très difficile, tout semble normal. Jusqu'au président de la République, avant qu'il prenne un scooter dans la nuit. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, tout semble parfaitement normal, tout semble. Mais pas du tout, vous ne savez rien. Alors, Balzac, c'était l'envers de l'histoire contemporaine, projet grandiose. Proust vous dévoile En somme, il n'y avait pas grand-chose avant, sauf si vous lisiez le Marquis de Sade, etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, là. Et puis, il vous dévoile l'homosexualité de la société tout entière. Enfin, c'est très... C'est brusquement une apparition énorme. Non, je sais pas, bon. Et donc... Et alors, et Proust lui-même s'étonnait. Il publie Sodome et Gomorrhe, etc. Et il dit, oh, c'est curieux, ça ne choque pas les gens du monde que je connais. Il lit ça comme si c'était un manuel de vertu. Alors que c'est extraordinaire. Bon, le personnage de Charlus, c'est une construction admirable. Donc, qu'est-ce que les gens n'ont pas envie de savoir? Eh bien, ils remplacent ça par des tas de produits. Enfin, il y a la religion, il y a l'idéologie, il y a ce qui se prend encore pour de la politique, alors que c'est simplement des discours aux ordres des marchés financiers. Ils n'ont pas envie de le savoir. Pourquoi? Parce que ça serait trop dur à supporter, ce serait effrayant. Eh bien, il faut aller à l'effrayant pour voir la lumière.
Et alors, le médium est-il quelqu'un de nécessairement seul? Parce que dans votre livre, Philippe Sellers, il y a vous, il y a un petit peu Loretta, il y a Ada, mais il y a le personnage seul avec Saint-Simon.
Est-ce que pas seulement vous... avec Saint-Simon, avec, je vous l'ai dit, seul avec toute la bibliothèque,
avec toute la musique,
s'il veut, avec vers 3h du matin, je me suis amusé, une radio chinoise qui émet sur onde ultra courte des citations de penseurs chinois en français. C'est faisable. Nous sommes dans un monde complètement planétairement différent. Ne parlons pas du 19e siècle, mais même du 20e, qui a été, comme chacun sait, quand même très très bouleversé. Nous sommes dans une autre dimension, pas seul du tout. Le fait d'être seul est la seule façon de rentrer en communication avec tout ce qui pense. Donc, si vous détruisez la pensée avec la communication, vous ne lisez plus rien, votre mémoire s'affaiblit, votre mémoire, c'est un muscle. S'il n'est pas entraîné, il commence à devenir flasque. C'est-à-dire comme, et ça, vous pouvez aussi en avoir la preuve. Vous faites lire quelque chose à quelqu'un, vous lui retirez la copie, qu'est-ce qu'il a lu, c'est pas très bien. C'est ça. Je vous parle de chez Gallimard, par conséquent, je dois savoir de quoi je parle, hein, puisque c'est en quelque sorte mon métier de citoyen. Hein, donc je dois savoir à peu près de quoi je parle. Si vous n'entraînez pas votre mémoire, vous êtes dans la communication de plus en plus instantanée, numérique. Et vous envoyez vos SMS, vos textos, c'est-à-dire peu de mots, vous perdez l'habitude de ce rythme qui est dans la poésie, bien entendu. Donc si vous perdez la poésie, vous perdez la liberté même d'exister. Vous ne vivez plus. Et donc c'est ça, un médium, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à entrer en contact avec des fantômes, mais qui cherche sans arrêt à rentrer en contact avec ce qui a pu être dit et pensé de plus lucide dans l'histoire humaine.